15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, c'est tous les jours de 15h à 16h. Je suis ravie de vous retrouver ce jeudi en direct pour une émission toujours en partie consacrée aux questions que vous vous posez sur l'épidémie de coronavirus. Pour m'aider à vous répondre, bien sûr, il est à mes côtés, mais de chez lui, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Alors aujourd'hui, nous commencerons par un point sur l'état de la recherche avec le docteur Vincent Hainouf, virologue à l'Institut Pasteur. Avec lui, nous verrons par exemple si les données concernant la virulence de ce virus ont changé. A-t-il muté depuis son émergence en Chine? Comment les chercheurs du monde entier le surveillent au jour le jour? Le professeur Hainouf nous aidera aussi à y voir plus clair sur l'élaboration en cours d'un vaccin. Des dizaines d'équipes de chercheurs travaillent dessus, mais dans quel délai réellement la population peut-elle espérer en bénéficier? Ensuite, vous le savez, dans son rendez-vous, désormais, la seconde partie de l'émission est consacrée à votre bien-être. Aujourd'hui, nous allons écouter les conseils d'une naturopathe, Angèle Ferremag. Elle est aussi cuisinière. Elle va nous aider à capitaliser tout ce que l'on met notamment dans notre assiette pour se remettre en forme après ce confinement qui nous a tous, il faut le dire, bien usés. Et puis pour finir cette émission, comme tous les jours, on retrouvera Catherine Blanc, notre sexologue, qui va aujourd'hui nous parler du slow sex. Pour certains, le confinement a permis de réaliser les bienfaits de la lenteur, y compris en amour. Elle nous décryptera lentement tout ça.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, vous êtes avec nous par téléphone, docteur Vincent Hainouf, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes virologue, responsable adjoint du Centre de référence virus et infections respiratoires à l'Institut Pasteur. Institut Pasteur qui est évidemment en première ligne dans le combat contre ce virus depuis le début. D'abord, comment allez-vous? Parce que j'imagine que, bon, à l'hôpital, on sait que ça souffle un peu. Du côté des chercheurs, c'est pas forcément la même chose, non?
Oui, ça, on continue en fait notre travail de recherche ou de surveillance de ce virus et actuellement beaucoup de tests d'évaluation de tests, que ce soit PCR ou sérologique, comme vous avez dû en entendre parler.
Alors, on va parler peut-être un tout petit peu de l'épidémie d'abord. On a des chiffres évidemment qui sont publiés tous les jours par la Direction Générale de la Santé qui montrent que le confinement a porté ses fruits. Est-ce que vous confirmez? Il circule vraiment moins activement ce virus en France?
Tout à fait, il circule moins, le confinement a eu son effet. Là, il va falloir être attentif sur les 15 premiers jours et surtout dans 15 jours pour vérifier s'il n'y a pas une augmentation. Et j'espère que ce ne sera pas le cas si les gens suivent toutes les recommandations de distanciation, port du masque, lavage des mains, etc. De telle manière à apprendre à vivre avec ce vaccin tant qu'on n'aura pas avec ce virus tant qu'on n'aura pas de vaccin.
L'lapsus révélateur, effectivement, oui. Jimmy.
Docteur Hainouf, on a l'impression, alors que l'épidémie a plutôt touché les zones urbaines, le Grand Est et énormément l'Île-de-France, est-ce qu'il y a des zones en France où il n'y a eu aucun cas ou très très peu, et peut-être expliquer ça par la densité urbaine où ça ne suffit pas comme hypothèse?
Alors, en effet, il y a eu des zones en Bretagne, par exemple, où il y a eu très peu de cas de détectés même, donc il y a peut-être au niveau urbanisation une part importante à regarder, et notamment ce que vous disiez sur les transports. Je dois dire l'exemple même des personnes qui travaillent dans le laboratoire à l'Institut Pasteur, c'est que tout pendant les 3 ou 4 mois qui viennent de passer, ces personnes prenaient leur voiture ou alors circulaient seules. Et donc, il n'y a eu personne de malade au laboratoire. Aujourd'hui, que les transports reviennent, on sait que c'est un moyen de dissémination du virus qui est très important. C'est ce qu'on voit tous les ans avec la grippe, par exemple. Eh bien, il va falloir faire très attention, être attentif, justement, à ce que ce système de transport qui est nécessaire pour que les gens puissent aller travailler ne relance pas, justement, la diffusion de ce virus dans la population. Donc, la distanciation n'est pas forcément évidente. Le port du masque et doit être fait forcément, et puis faire très attention au lavage des mains et éviter de toucher n'importe quoi. Enfin, ça va être très difficile, on le sait, mais ça va être une part importante de la réussite que les gens ont et que les gens aient conscience en fin de compte que c'est un mode de transmission favorable au virus.
Vincent Hainouf, à Pasteur, vous êtes chargé de le surveiller, ce virus, ainsi que ses évolutions éventuelles. Qu'est-ce que vous avez observé jusque-là? Je sais qu'il y a à peu près un mois, vous étiez venu sur ce plateau, enfin en ligne, nous dire qu'il mutait assez peu. Est-ce que c'est toujours le cas?
Oui, c'est toujours le cas. Il y a des mutations qui permettent de déterminer des groupes, si vous voulez. On va savoir, par exemple, en France, vous avez même en Europe, vous avez une mutation, ce qui s'appelle D614, qui permet d'établir, en fin de compte, les virus du groupe G. C'est juste une phylogénie qui indique, si vous êtes porteur de cette mutation, ça veut dire que vous faites partie de ce groupe. Ça ne veut pas forcément dire que le virus est plus dangereux, qu'il est plus contagieux ou quoi que ce soit. On n'a pas obtenu jusqu'à aujourd'hui d'études, en tous les cas, et et justement le cumul de toutes ces séquences, maintenant on en a plus de 20 000 je crois, qui permettent de dire si telle mutation est responsable d'une contagiosité plus importante, si elle est responsable d'une pathologie différente des autres. Aujourd'hui je dirais qu'on apprend plus à observer justement ce que provoque ce virus, et même parfois à distance, par exemple avec les maladies de Kawasaki chez les enfants qui sont observés, il n'est pas certain que ce soit directement le virus, mais peut-être, à distance de l'infection par le Covid-19, une réaction qui s'opère quelques semaines après.
Docteur Jimmy Mohamed.
Ça veut donc dire que sur le territoire français, on ne sait pas si c'est forcément la même souche de coronavirus qui circule ?
C'est-à-dire que ce dont on est sûr, c'est que les toutes premières détections qu'on a pu faire sur le territoire français étaient des personnes qui, soit des Asiatiques qui venaient en vacances en France, ou soit des personnes qui vivaient justement dans ces zones en Chine. Aujourd'hui, les séquences des virus qui circulent, enfin qui circulaient, puisqu'il y a vraiment une moins grande circulation en France, ces virus sont différents, font pas partie du même groupe. Donc sans doute que les virus qui sont diffusés au sein de la France, et on fait
pas
même
exactement
l'hypothèse,
les mêmes, mais
ne sont pas exactement les mêmes, et ça serait même des porteurs, je dirais, asymptomatiques qui ont permis de diffuser quelque part ce virus en France. Mais dans les zones urbaines, comme vous le disiez tout à l'heure.
J'imagine, docteur Hénouf, que vous surveillez aussi des échantillons du coronavirus qu'on retrouve peut-être dans d'autres pays, je ne sais pas, par exemple en Afrique, qui semble finalement pas si touché que ça, je sais qu'on s'en inquiétait beaucoup. Est-ce que c'est parce que peut-être en Afrique, il y a une forme moins virulente que nous ou pas ?
Non, je ne suis pas certain qu'il y ait une forme moins virulente. Déjà, notre forme, est-elle vraiment virulente ? Oui, il y a des décès. On sait que c'est des pathologies chez des gens qui portent des pathologies importantes. Il y a aussi des gens qui sont morts et qui n'avaient pas de pathologie. Donc, en effet, il y a des choses à apprendre sur ce virus. Mais en Afrique, il se pose plusieurs questions. Est-ce que le système de surveillance est aussi fin, aussi précis que d'autres, et notamment le nôtre, ou même en Europe, ou dans la partie occidentale? Ça, c'est une question, et donc ça ne permettrait pas forcément de repérer toutes les personnes infectées.
Oui, après, moi, j'ai vu des images d'un service de réanimation, je ne sais plus dans quel pays africain, hier soir, où il montrait qu'il y a, sur 18 lits de réa, par exemple, dans un hôpital africain, il en restait 13 de livres. Si vraiment ils circulaient beaucoup plus qu'on ne le pensait, ils seraient surchargés eux aussi, non, je pense.
Ok, il y a peut-être ça, mais il y a aussi dans certaines zones africaines, le fait d'aller à l'hôpital n'est pas aussi évidente que nous, par exemple, pour y avoir été dans le réseau international de l'Institut Pasteur, c'est-à-dire que les gens vont à l'hôpital pour leurs enfants dans un premier temps, et pour les adultes, c'est vraiment dans les cas d'extrême urgence. Donc on n'a pas du tout
le même usage non plus du système de santé.
Le même usage des services de santé.
D'accord. Docteur Jimmy Mohamed.
Qu'est-ce qu'on ignore encore sur ce virus, et s'il fallait prioriser, qu'est-ce qu'il faudrait absolument savoir à son propos ?
Ben c'est sur tout ce qui est, je dirais, pour l'instant, au niveau de l'immunologie. La réaction immunitaire qui est provoquée par l'infection à Covid-19. Et on apprend, on essaye d'en connaître un peu plus sur justement ce que vous avez dû entendre sur l'efficacité justement d'une infection à produire des anticorps. On remarque que cette production d'anticorps n'est pas la même suivant la maladie, suivant l'âge de la personne. On remarque que des personnes qui ont été hospitalisées, des cas graves, ont sans doute des taux d'anticorps plus importants, et cela serait révélateur aussi d'anticorps neutralisants, donc ce qui les protégerait éventuellement contre une seconde infection. En revanche, les personnes peu symptomatiques ont pour la plupart peu d'anticorps et sans doute ne sont pas protégés contre ce virus, et donc pourraient très bien être infectés ou porteurs du virus qui permettrait une dissémination encore de ce virus dans la population.
Merci docteur Hénouf. Bien sûr, on n'en a pas terminé avec vous. On se retrouve dans quelques instants.
Europe 1.
Dans quelques minutes, Sans Rendez-vous revient. Nous allons parler justement de la recherche vaccinale plus en détail avec le docteur Hénouf. Comment développe-t-on un vaccin contre un virus sur lequel on en découvre encore tous les jours ? Pourquoi a-t-on l'impression que la recherche d'un vaccin en France va peut-être un peu moins vite qu'ailleurs dans le monde ? Et surtout, quand peut-on espérer, nous, en bénéficier de ce vaccin ? On vous explique tout ça juste après. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Europe 1. Sans Rendez-vous. rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors il est toujours en ligne avec nous, le virologue Vincent Hainouf. Vous êtes responsable adjoint du centre de référence virus et infections respiratoires à l'Institut Pasteur. Vincent Hainouf, on a une question qu'on a reçue, puisqu'on va parler de vaccins à présent avec vous. Une question de Xavier qu'on a reçue par mail. Il nous demande pourquoi se lance-t-on dans la recherche d'un vaccin contre le Covid qui est supposé nous attribuer une immunité contre ce virus, alors que l'immunité développée naturellement après une infection n'est pas certaine. En quoi diffère l'immunité après vaccination de celle après infection, finalement?
Alors, ce que l'on remarque, c'est que certaines personnes ont acquis une immunité. Donc, l'immunité est toujours possible. Et donc, justement, la mise au point de différents vaccins sous différents modèles et différentes études de ces vaccins vont permettre de vérifier sur différents modèles, jusqu'au modèle humain, en fin de compte, si les anticorps produits protègent bien. En fin de compte, il faut trouver la bonne solution, le bon maillage pour avoir quelque chose qui va stimuler le système immunitaire et qui va protéger. Donc c'est pour ça que ça va demander du temps et qu'il faut plusieurs modèles de vaccins pour être certain qu'à un moment donné, on en aura un.
Non, je voulais vous dire justement plusieurs modèles de vaccins. Combien il y en a en ce moment en cours de développement dans le monde des vaccins?
Dans le monde, je pense qu'on parle d'une petite centaine aujourd'hui.
Ah oui, quand même. Je pensais que c'était plusieurs dizaines, mais c'est une petite centaine quand même.
Oui,
docteur Jimmy Mohamed.
Et pourquoi est-ce qu'on a besoin justement de faire autant d'essais, autant de pistes différentes? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se focaliser sur les pistes les plus prometteuses et en gros rassembler nos forces? Ou vous pensez que c'est bien de tester tout ce qui est possible?
Alors, je ne sais pas si c'est tester tout ce qui est possible. En tous les cas, il existe de nombreuses équipes de recherche qui ont éventuellement une solution vaccinale. Et donc, au même moment, vous avez l'ensemble des équipes de recherche mondiales qui sont lancées sur la mise en place d'un vaccin avec ce qu'ils pensent, eux, être la bonne solution. Donc l'idée, c'est que, et j'espère, c'est qu'à un moment donné, on aura quelque chose qui va fonctionner et qu'à ce moment-là, les industriels ou en tous les cas, une réflexion peut-être des États sera de, si on a la bonne solution et que ça marche, produire de manière importante et de le diffuser le plus rapidement possible.
Docteur Hainouf, on va parler de la piste qui est justement explorée chez vous. À Pasteur, vous êtes parti d'une base de vaccins existant, hein, celui contre la rougeole. Vous l'avez modifié et je crois que les tests sur les animaux ont commencé. Est-ce qu'on sait déjà si cette phase expérimentale chez l'animal, elle est prometteuse? Je crois que sur les souris, ça ne fonctionne pas si mal, hein.
Alors, ce sont des premiers tests. Moi, je ne suis pas directement relié à cette test sur le vaccin. C'est une autre équipe de recherche à l'Institut Pasteur. Mais en effet, il y a des premiers résultats sont en train de sortir. Et les protagonistes, justement, de cette recherche en parleront mieux que moi, en tous les cas. Mais il s'avère que les premiers résultats seraient, en effet, plutôt intéressants.
Jimmy.
Et certains sont inquiets à propos de la tolérance et des éventuels effets secondaires d'un nouveau vaccin avec peu de recul et une population qu'on va vacciner peut-être massivement. Est-ce qu'il est possible justement d'avoir de nouveaux effets secondaires liés à la vaccination ou finalement ils resteraient les mêmes par rapport à un autre vaccin classique?
Alors l'idée justement c'est de... En fait ce qui est très compliqué dans ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est qu'on aurait tendance à vouloir évidemment prendre son temps pour vérifier justement que tous ces effets secondaires, ou en tous les cas tout ce que pourrait produire éventuellement ce vaccin, soit bien vérifié avant l'administration à grande échelle au niveau humain. Ce sera un vaccin sur des modèles. En fait, je ne sais pas quel est le vaccin qui fonctionnera aujourd'hui. Donc, suivant les modèles, certains modèles auront peut-être déjà fonctionné avec d'autres épitopes, c'est-à-dire d'autres protéines permettant de stimuler le système immunitaire. Et donc, il y aurait juste cette protéine différente qui serait spécifique du nouveau coronavirus. Les effets secondaires seraient sans doute très proches de ceux que l'on connaît pour un vaccin pour...
on parle de celui de la rougeole, donc on le connaît. Ouais.
Alors, la rougeole, c'est-à-dire qu'on utilise le squelette de la rougeole.
C'est ça.
Ce même squelette a été utilisé pour d'autres, par exemple pour un Zika, pour d'autres virus, d'autres vaccins potentiels. Et donc, en utilisant ce squelette, on modifie juste des protéines extérieures qui vont stimuler le système immunitaire. Et là, ce sont des marqueurs, si vous voulez, qui sont spécifiques du nouveau coronavirus. Donc, le squelette, c'est toujours le même. Ce qu'on change, ce sont quelques protéines qui vont stimuler le système immunitaire. Et donc, on le connaît déjà, en fin de compte. Donc, ça sera à vérifier lors des essais cliniques.
ce vaccin, il fonctionne à peu près, a priori, chez l'animal. Enfin, c'est ce qu'on il semble sortir. Chez l'homme, ça va démarrer quand? Et c'est facile de trouver des cobayes humains, entre guillemets, pour tester un vaccin nouveau comme ça?
Honnêtement, je ne suis pas du tout dans les essais cliniques. Je ne peux pas vous dire comment ça se passe et comment sont recrutées les personnes, justement, qui participent à ces essais.
D'accord. Bon, Jimmy Mohamed.
Est-ce que vous savez, alors c'est vrai que c'est compliqué, hein, chaque fois on fait des hypothèses, mais si le vaccin sera disponible pour les Français, pour tout le monde, parce que d'ailleurs il y a une petite polémique avec Sanofi qui a dit qu'ils serviront d'abord les Américains, est-ce que vous avez une idée ou un éclairage à ce propos?
J'ai aucun éclairage à vous apporter à ce propos. Là ça sort complètement de la recherche, là c'est plutôt à mon avis politique ou géopolitique. J'ai aucune réponse à faire à ce niveau-là.
Ouais. Docteur Enouf, les Américains, les Allemands, je crois qu'ils ont déjà commencé les tests chez l'homme. Alors là, c'est, on va dire, d'un point de vue global, hein, de la recherche. Pourquoi on a l'impression que... Alors nous, on est chez l'animal, sur ce vaccin-là de Pasteur, mais il y en a d'autres. Pourquoi on a l'impression que la recherche en France, elle va un peu moins vite que les autres?
Honnêtement, j'ai pas tellement de... En effet, en France, il n'y a pas que Pasteur, à mon avis, qui propose, qui est en train de réfléchir, en tous les cas, sur l'élaboration d'un vaccin. Après, quelles sont les informations qu'on a chez les uns, chez les autres? Vous avez les firmes pharmaceutiques qui s'allient aussi pour essayer d'aller plus vite, de telle manière à avoir la meilleure bonne idée et ensuite d'être en capacité de le produire rapidement. Honnêtement, j'ai pas forcément de réponse à vous apporter entre la comparaison entre la France ou d'autres pays. Après, vous avez aussi la chance de certains laboratoires qui font partie de certains pays qui avaient peut-être une meilleure bonne idée, j'en sais rien, en tous les cas, était peut-être plus avancée sur un modèle particulier. Et le fait de changer juste un des constituants de ce vaccin leur permettrait peut-être aujourd'hui d'avoir quelque chose qui fonctionne contre ce nouveau coronavirus. Après, mais tout ça, c'est la recherche. La recherche avance vite. Parfois, vous avez des écueils. Et ça, c'est tout le temps comme ça, en fin de compte.
Bon, vous pensez qu'on,
une fois qu'on avance, pourrait très bien reculer ensuite. Après, vous savez pas, une fois que vous allez arriver au niveau des essais cliniques, tout peut s'arrêter aussi. Donc
c'est compliqué. L'OMS a estimé hier que le coronavirus pourrait ne jamais disparaître et devenir endémique, même si ça prend du temps. Ça veut dire qu'un vaccin, de toute façon, restera toujours primordial. Hein.
Ah, tout à fait. Pour l'instant, on ne sait pas si le virus va devenir saisonnier. On ne sait pas si l'hiver prochain, par exemple, on devra combattre le virus de la grippe, les autres virus respiratoires et ce nouveau coronavirus. Ou est-ce que ce nouveau coronavirus prendra la place, une place importante, et d'autres virus respiratoires disparaîtront? On n'en sait rien du tout. En revanche, ce que l'on sait, et c'est ce qu'il faut se préparer, c'est que s'il est là, en même temps que la grippe, il serait préférable d'avoir justement un vaccin, en tous les cas, des éléments qui nous permettent de nous protéger ou de nous soigner. Parce que là, on parle que du vaccin, mais il faut aussi penser qu'il y a des molécules antivirales qui pourraient être aussi éventuellement utilisées de telle manière à soigner rapidement et en tous les cas à baisser la charge virale de telle manière à ce que les personnes puissent récupérer rapidement.
Merci beaucoup, docteur Enouf, d'avoir été avec nous. Merci d'être venu nous présenter quelques-uns de vos travaux. Merci.
Europe 1.
Dans un instant, avec le docteur Jimmy Mohamed, nous allons prendre le temps de répondre à quelques-unes de vos questions, celles que vous nous laissez tous les jours sur le répondeur d'Europe 1. Tout ça, c'est dans quelques minutes. À tout de suite.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous,
15h, 16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission santé. À mes côtés, toujours bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed qui va prendre le temps, lui, de répondre à quelques-unes de nos nombreuses questions, de vos nombreuses questions sur le 39-21. On va commencer par la question d'Eliane, on l'écoute.
Voilà, j'aurais aimé savoir ce qui va se passer au niveau des cures thermales. Est-ce qu'on va pouvoir faire une cure thermale cette année? Moi, je suis inquiète parce que je pense qu'on va être beaucoup de personnes... ensemble, des personnes qui ont tous des problèmes de santé. Donc, est-ce que c'est logique qu'on puisse faire une cure thermale? Est-ce que vous pouvez me renseigner? Parce que personne n'en parle de ça. Voilà, merci.
Alors, elle pose la question et en même temps, elle répond d'une certaine façon elle-même à la question. Jimmy, les cures thermales, c'est vrai que ça rassemble de fait des gens souvent, des personnes âgées, donc à risque, et des personnes souvent qui ont des problèmes de santé chroniques, hein, c'est ça? Donc, effectivement, lieu à haut risque quand même.
Oui, vous avez raison. À ce jour, les cures thermales sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Il y a une hypothétique date de réouverture au 13 juillet, mais sans aucune certitude. Et vous avez tout à fait raison, c'est un risque de transmission. Un espace clos, humide, confiné, où des gens se rassemblent, plutôt âgés, plutôt fragiles, avec des pathologies chroniques. Et donc évidemment qu'il va falloir s'organiser pour améliorer la sécurité. Et puis, d'une autre façon, qui dit cure thermale dit souvent secteur de l'hôtellerie, de la restauration. Il faut aussi qu'il y ait d'autres autorisations. Donc il est possible que pour cet été, ça soit un peu compliqué, même si on a énormément de semaines à projeter d'une semaine à une autre. Donc peut-être que d'ici mi-juillet, les choses pourraient s'améliorer.
Très bien, donc à suivre. Jimmy, on va répondre à une autre question qui nous a été envoyée par Mathieu dans les Hauts-de-Seine, qui nous demande s'il peut envisager de reprendre son travail alors qu'il est lui-même hyper tendu et en surpoids. Il dit qu'il passe 45 minutes dans les transports pour s'y rendre. Donc il demande s'il peut demander éventuellement à son médecin un arrêt maladie, même s'il n'est pas malade.
Alors c'est compliqué, c'est ce qu'on appelle les salariés vulnérables. Et en fait, au 30 avril, les salariés qui avaient déjà eu un arrêt de travail via le site de la Sécurité sociale recevront automatiquement, normalement, ils ont reçu au 1er mai, un certificat à remettre à l'employeur. Et pour les gens qui n'ont pas fait cette démarche, ils peuvent demander au médecin un certificat d'isolement, mais qui donne droit à une activité partielle. Ce n'est pas un arrêt de travail à proprement parler. Même chose si jamais vous cohabitez avec des personnes vulnérables. Donc l'idée, malgré tout, c'est de ne plus avoir ces arrêts préventifs comme on a pu le faire auparavant. Et puis, peut-être que les choses peuvent être réévaluées en fonction de votre activité, de la zone où vous êtes. Une zone où le virus circule peu n'est peut-être pas à autant risque que celle de l'Île-de-France. Donc, beaucoup d'interrogations. En tout cas, si vous devez prendre les transports, portez un masque, lavez-vous les mains. Et en principe, ça devrait bien se passer, même si il faut être prudent. Vous avez tout à fait raison.
Alors, on va prendre une autre question de Jimmy qu'on a reçue donc, sur le 39-21, elle aussi. Celle de Pascal de Lyon. On l'écoute tout de suite.
Voilà, j'avais une question. Je voulais savoir, parce que mon fils, quand il a eu un an et demi, a eu le syndrome de Kawasaki. Il a maintenant 21 ans et je me demandais s'il pouvait avoir un risque plus particulier vis-à-vis du Covid-19, vu ses antécédents. Je vous remercie. Au revoir.
Bon, alors elle parle quand même d'un syndrome de Kawasaki qui a eu lieu il y a 21 ans. Jimmy, ça date un peu. J'imagine que ça dépend s'il a gardé des séquelles de ce syndrome ou pas, non, pour sa vulnérabilité vis-à-vis du coronavirus. Non,
pas tout à fait, car en principe, le syndrome de Kawasaki, lorsqu'il est traité, ne donne pas de séquelles. Les gens ont un suivi cardiologique, puisque le risque, c'est les atteintes des artères coronaires. Et à 21 ans, il y a peu de risque de refaire une maladie de Kawasaki. C'est une maladie liée à l'enfant. En revanche, qui dit maladie de Kawasaki dit complications cardiaques avec des myocardites qu'on a aussi observées dans le cadre du coronavirus chez des sujets plutôt jeunes. Donc à l'heure actuelle, on n'a pas de réponse à apporter. Mais étant donné qu'il a fait une réaction immunitaire inflammatoire un peu particulière lorsqu'il était enfant, on peut se dire qu'il faut être très prudent, même si avant 20 ans, c'est une donnée qui est très importante, la mortalité au Covid-19 est de 0,001%. Oui, donc les sujets
très
jeunes
très
est très très faible. Mais voilà, soyez prudents puisque pour l'instant, on ne sait pas, on en apprend encore tous les jours.
Merci beaucoup Dr Jimmy Mohamed pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant avec la partie bien-être de notre émission. Et aujourd'hui, on va écouter les bons conseils de la naturopathe et chef Angèle Ferromag pour nous remettre tous d'aplomb après ces 2 mois de confinement. Ça va nous faire du bien. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans quelques toutes petites minutes avec nos meilleurs conseils bien-être. Mais avant ça, place à la musique sur Europe 1 avec le groupe anglais Mike and the Mechanics. Ça s'appelle Over My Shoulder.
My heart.
Un petit retour dans les années 90. Vous venez d'entendre le groupe britannique Mike and the Mechanics et leur titre Over My Shoulder.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. Alors à présent, on passe donc à la partie bien-être de cette émission. Et pour cela, nous accueillons tout de suite en ligne Angèle Ferremag. Bonjour Angèle.
Bonjour Mélanie.
Oh, ça fait plaisir de vous entendre. On sent que vous avez la pêche comme toujours. Alors vous êtes chef et naturopathe, ça tombe bien. On a envie de nature, de naturel en ce moment pour se remettre en forme. Alors d'abord, qu'est-ce qui est primordial selon vous pour avoir un bon système immunitaire en cette période un peu trouble, on va dire. On en a besoin.
Oui, on en a besoin, c'est vrai. Alors évidemment, il n'y a pas de produit miracle. En revanche, on peut renforcer la flore intestinale parce qu'on sait aujourd'hui qu'une bonne partie de l'immunité réside dans la flore intestinale. Donc miser par exemple sur des probiotiques. On sait qu'on peut manger du magnésium pour éviter d'être fatigué. Et puis aussi bien dormir, respirer, c'est hyper important pour l'immunité.
Je reviens sur la flore intestinale dont vous parliez à l'instant, le fameux microbiote. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, Jimmy. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, tout ce qui est autour du microbiote. Vous parliez des probiotiques. Donc, comment on les trouve, ces probiotiques? On va se servir où? On peut les fabriquer? J'en sais rien. On les trouve dans des aliments en particulier. Qu'est-ce qui fait du bien à notre flore intestinale?
Alors déjà, on en trouve tout simplement en consommant du cru, parce que ça va aussi permettre de nourrir ces fameuses bactéries. Donc si on peut commencer tous ces repas par un peu de cru en mastiquant bien, donc par exemple des carottes, du concombre, enfin tout ce qu'on veut, mais vraiment cru. Et ensuite, on va pouvoir consommer des produits lactofermentés, comme par exemple la choucroute crue, le kéfir, le kombucha, les yaourts aussi, les fromages frais, ça contient plein de probiotiques. Et puis sinon, on peut faire des cures.
D'accord. Ah oui, Jimmy, vous adorez, vous, la choucroute, ça tombe bien, non? Ça, c'est bien pour vous.
Ça me donne des flatulences et je pense que ça déplaît à ma femme. Mais en parlant, du coup, on est là pour parler d'alimentation, mais moi, je considère que les aliments sont comme des médicaments et que certains sont donc riches, notamment en vitamines, comme le magnésium. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut en trouver dans les aliments? Parce que souvent, les gens cherchent à avoir des compléments à la pharmacie, alors que peut-être dans l'alimentation, on peut en avoir.
Ah bah, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est beaucoup plus sain de trouver les bonnes choses dans l'alimentation. Le magnésium, on le trouve notamment dans la banane, les céréales, les amandes, donc tous les oléagineux, même les noix, les noix de cajou, les noix du Brésil, tout ça, mais aussi dans les fruits de mer et dans le chocolat noir.
Ah voilà, là vous me faites plaisir. Alors le chocolat noir, donc c'est bien s'il y a du magnésium. Le magnésium qui est donc anti-fatigue, hein. Souvent ça nous rebooste quand on en manque, on n'est pas en forme. Et quand on en prend, on est mieux. Donc le chocolat, à quel point je peux en consommer pour avoir la bonne dose de magnésium sans non plus faire péter ma balance, quoi?
Bah, l'idéal, c'est déjà de consommer un bon chocolat. C'est sûr qu'il ne s'agit pas de manger toute la plaquette. Donc on choisit un chocolat qui est très riche en cacao.
Et on trouve donc le chocolat magasins. Blanc que j'adore, moi avec le petit dauphin dessus, ça marche pas bien ça.
Non, celui-là,
bon.
Pas la coco, là. Mais l'idéal, c'est de choisir un chocolat très riche en cacao et de le consommer très peu. Et d'ailleurs, la sensation de satiété vient beaucoup plus vite avec ces chocolats-là qu'avec les petits dauphins.
Jimmy, bon, donc petit dauphin, moi j'oublie. Et vous?
Oui. On va parler peut-être pas de dauphin, mais de vitamine C. Je crois que c'est important. On peut en trouver où la vitamine C?
La vitamine C, on en trouve principalement dans le kiwi. Puis en plus, le kiwi, c'est excellent pour plein d'autres choses, mais aussi dans les fruits rouges, dans les agrumes. Donc on parle beaucoup de l'orange, mais aussi dans le citron, par exemple, dans les choux. On en trouve, en fait, dans les fruits et les légumes de saison, on en trouve très facilement.
C'est quoi justement en ce moment les fruits et légumes de saison sur lesquels il faut se jeter, on va dire, qui vont nous faire du
bien? Alors là, bah, déjà, essayons de choisir un rayon bio.
Oui, de préférence,
là,
bien sûr.
On a donc des pommes, on a des poires, on a les asperges qui sont excellentes, les petits pois qui arrivent, on a tous les fruits et les légumes primeurs. Ça commence à être magnifique dans les rayons, on commence à avoir plein de couleurs, les radis aussi, il y a les premières tomates, les choux, puis aussi tout ce qui est les herbes aromatiques, l'oseille, le cresson, l'estragon, le cerfeuil.
C'est vrai qu'on va commencer à pouvoir se régaler là sur les marchés. Alors ça ouvre dans des conditions de sécurité. Moi, dans le mien, il y a des trucs en plastique de partout, donc on a du mal à voir les jolies couleurs des étals. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses très appétissantes, ça y est, qui sont dans les étals de marché et même de supermarché. Deux mois donc sans vraiment sortir, hein, puisque pour certains, on est resté quand même confiné strictement à la maison. On a manqué un peu de lumière, donc on est peut-être tous en carence de vitamine D. Alors certes, il y a les ampoules qu'on peut prendre en supplément, qui sont très bien, mais dans les aliments de la vitamine D, on le sait pas forcément, mais on peut aussi en trouver. Hein.
Oui, on peut en trouver. On en trouve notamment dans les petits poissons gras, comme le hareng, les sardines, le foie de morue pour ceux qui aiment. Bon, j'admets.
Ouais, non, pas trop.
Le thon. On en trouve aussi dans les œufs, dans le lait, les boissons au soja, et puis dans les tripes et le foie pour ceux qui
aiment. Jimmy, les tripes et le foie, tout ce que vous aimez, donc c'est bon, vous êtes plein de vitamine D, là, bon.
Oui, tout ce que j'adore. Vous, pour une bonne haleine, en plus, c'est parfait. En parlant d'haleine et de beauté, est-ce qu'il existe des aliments qui pourraient nous donner un plus joli teint? Je dois vous avouer qu'avec ces deux mois là de Covid, je ressemble à pas grand-chose.
Vous avez une sale gueule. Hein. Il est fatigué, le pauvre, c'est normal, il n'a pas arrêté.
Oui, je pense pas du tout que vous avez une sale gueule, mais par contre, je pense que ça nous fait du bien à tous de consommer des produits qui sont riches en bêta-carotène. Donc, il y a évidemment la carotte qu'on connaît tous, mais le curcuma aussi, qui ressemble à du gingembre, qui est cette petite racine qu'on peut râper un peu dans les salades. On le trouve frais, c'est excellent, c'est bourré de bêta-carotène.
Mais aussi on râpe comme ça et on mange ça cru. Moi, je crois que c'était juste en poudre le curcuma. Maintenant, il y a aussi des racines comme le gingembre. D'accord.
Voilà, exactement. Ça ressemble à la gingembre, donc souvent on confond, mais c'est beaucoup plus petit. Et c'est délicieux, ça a plein de goût, c'est ce qui donne la couleur au curry et tout ça. Et c'est très, très bon. Puis aussi dans la betterave, le chou, la patate douce. En fait, tout ce qui est très coloré contient de la bêta-carotène, donc c'est intéressant.
Après, vous serez tout orange, Jimmy, vous aurez bonne mine, vous allez être tout orange, comme les bébés, quand on leur donne beaucoup de purée de carottes, ils ont parfois le bout du nez orange, et ben on va faire pareil. Je crois que c'est la saison, c'est la saison des allergies, ça je le sais, mais je crois que vous dites que les pollens aussi, on peut les consommer et ça peut avoir des bienfaits. Alors c'est quoi les bienfaits du pollen? Moi, à part me faire éternuer, j'en vois pas d'autres, mais dites-nous.
Déjà, c'est pas du tout les mêmes pollens, ceux qui nous rendent allergiques parce qu'ils sont oxydés dans l'air, et ceux qu'on peut consommer qui sont frais. Donc moi je conseille, on les trouve en général dans les magasins bio, donc, ou alors en bocal. Dans ces cas-là, ils sont séchés, ils sont déshydratés. Mais le mieux du mieux, c'est quand on les achète au rayon surgelé et qui sont frais. Donc c'est vraiment des pollens frais qui sont excellents. Il y en a de plein de fleurs, de plantes différentes.
Pollens surgelés, j'ai jamais vu ça. Vous mangez quoi, vous, par exemple, dans les pollens surgelés? Qu'est-ce que vous consommez?
Alors, il y a le ciste, la bruyère, le framboisier. D'accord. En fait, à chaque petit problème, son pollen.
Génial. Et vous consommez ça comment? Vous le mangez au petit déjeuner? Enfin, comment vous le cuisinez, ce truc-là?
Et bah déjà, je conseille de pas du tout le cuisiner, justement, et de le manger le plus isolé possible. Donc, de pas trop le mélanger, surtout pas le chauffer. Par exemple, dans une bonne compote maison, c'est excellent, ou dans un yaourt, mais sinon, même à la
cuisine. Quel bénéfice on peut en tirer de ça? Ça se fait quoi, là? Ça va nous procurer quoi comme bienfait?
Déjà, ça équilibre la flore intestinale, dont on parlait tout à l'heure, qui est bien importante. Ça aide, alors paradoxalement, ça aide à calmer un petit peu les allergies. Ça donne de toute façon de l'énergie, c'est bon pour le système immunitaire. Et puis, c'est plein de fer, donc pour combattre l'anémie, c'est intéressant aussi.
Très bien, bah, écoutez, on va manger des pollens. Angèle, on s'arrête quelques minutes, on n'en a pas terminé avec vous, on se retrouve juste après.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer ce petit programme naturel pour se remettre tous en forme, notamment sur le plan digestif. Bien sûr, beaucoup ont fait quelques excès pendant ce confinement. Alors, comment remettre du bon et du sain dans son assiette et donc dans notre organisme, évidemment. Beaucoup de ressources pour notre bien-être sont dans la nature. On continue de vous guider juste après. Restez sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed qui est en train de grignoter des pollens, je l'entends de chez lui. Alors elle est toujours en ligne avec nous, Angèle Ferremag, vous êtes chef et naturopathe. Angèle, on a reçu quelques questions et d'ailleurs c'est souvent le cas même d'habitude, hein, avant l'été, comme ça on reçoit ce genre de questions hors épidémie, des gens qui nous demandent si c'est le bon moment là avant de sortir les gambettes, de faire une cure détox de l'hiver, du gras un peu qu'on a consommé. Est-ce qu'à votre avis c'est la bonne période pour se lancer dans ce genre de cure détox ou pas?
Bah oui, je pense que c'est la période idéale. Alors, dans le mot détox, on entend plein de choses parce qu'on le voit beaucoup dans les magazines et tout ça, mais en fait, ça veut juste dire une pause alimentaire et un petit break de tous les excès. Mais oui, c'est le moment idéal.
D'accord. Alors, une amie, moi, a décidé de manger que des pommes, là, pendant plusieurs jours. Moi, je sais pas, ça me paraît quand même un peu dangereux, ça, d'être sur un mono-aliment que des pommes pendant 3-4 jours. S'il n'y a pas un risque, quand même, et c'est ça qui va faire du bien?
Alors, évidemment, il faut pas le faire sans l'avis de son médecin. Il faut être en très bonne santé. Évidemment, quand on a une pathologie ou des problèmes alimentaires, ou même psychologiques, c'est vraiment déconseillé. Ouais. Qu'on est enceinte, qu'on est malade, tout ça, il faut vraiment, vraiment éviter. Mais si votre médecin est d'accord, je trouve que c'est une super idée. Et donc la détox, ça peut passer par, comme votre ami, par une monodiète, donc plusieurs jours d'affilée avec le même aliment, ou alors par une cure de jus, par exemple. Il ne faudra pas le faire trop longtemps. Enfin, ça va dépendre vraiment de son état de santé.
D'accord. Alors lui, il est médecin, donc il va estimer tout seul, mais je ne suis pas sûre que sa monodiète choucroute soit une bonne idée. Alors Jimmy, à vous.
Oui, parce que, non mais justement, avec quel autre aliment on pourrait faire ça? Monodiète choucroute, peut-être pas, mais monodiète riz ou pâte, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il faut faire ça une semaine,
pas de
deux semaines?
Lui, il veut faire juste pas de bolo pendant deux semaines. Est-ce que ça va, Angèle? Ça, c'est bien ou pas?
Alors, ben non, évidemment, il y a les aliments un peu stars de la monodiète, comme les pommes, le riz demi-complet, les pâtes, donc vaut mieux pas parce que ça contient du gluten et ou alors des pâtes anciennes, comme des pâtes de Camut, par exemple. Mais sinon, les fruits rouges, les pommes de terre, enfin, c'est vraiment choisir un aliment de bonne qualité. Mais les pommes de terre est moins connue, parce que souvent, les gens...
Oui, donc je fais une monodiète raclette, et ça marche bien, la monodiète raclette. Parce que moi, je mets beaucoup de pommes de terre dans la raclette. D'accord. Ah oui, pas le fromage et pas la charcuterie qui va avec. D'accord. Ah oui, mais la monodiète pommes de terre, ça se fait, d'accord, je ne savais pas.
Oui, c'est excellent, ça permettrait de baisser un peu l'acidité. Du corps, mais le truc, c'est comme ça fait moins maigrir, on en entend moins parler, mais c'est une très bonne monodiète.
D'accord. Et on peut en attendre là aussi quel bienfait de cette détox, on va dire monodiète, justement, c'est-à-dire manger qu'un seul aliment pendant, d'ailleurs c'est pas pendant des semaines et des mois, hein, l'idée c'est de le faire souvent sur quelques jours. Qu'est-ce que ça va faire sur le système digestif, par exemple?
En fait, on peut le faire en effet sur quelques jours ou même sur un repas par jour, tout simplement. Le principe, c'est de faire une petite pause digestive, en fait. On passe en moyenne 7 heures par jour à digérer, donc c'est de l'énergie qui est dans le ventre. Et plus on mélange les aliments, plus ils sont compliqués et longs à être digérés. Et donc quand on n'en choisit qu'un seul, ou un liquide par exemple, ça permet à la digestion d'être plus rapide, en plus d'apporter des bienfaits assez directs, sans lancer le système digestif presque, et donc d'avoir de l'énergie pour faire ce qu'on peut appeler un petit nettoyage de printemps dans le reste du corps.
Le système digestif, d'accord, ouais, c'est intéressant. Jimmy, à vous.
Oui, en plus Mélanie qui souffre de problèmes de transit assez importants, je pense que ça pourrait lui faire du bien de le
c'est
mettre
cadeau. Justement
à
la fin de l'émission, il
repos.
Se lâche à chaque fois, il peut pas.
Le secret médical m'empêche d'en dire plus, mais on est bien d'accord,
oui, bien
Angèle,
sûr.
Que
n'oubliez
le but,
pas, vous êtes mon médecin. Hein.
Le but, c'est de pas trop. Le but, c'est pas forcément de mincir, c'est de repartir sur une bonne base pour être un peu, on va dire, remettre les compteurs à zéro en quelque sorte.
Exactement, c'est exactement le principe. Il faut arrêter de croire que c'est ce qui va nous faire maigrir, parce qu'après on va tout reprendre si jamais on est dans cette optique de reprendre exactement la même alimentation après. Mais c'est de faire une sorte de reset, de point de départ. On se sent bien, on est plein d'énergie et ça peut nous permettre d'arriver dans l'été en pleine forme.
D'accord, et on est d'accord parce que bon, moi je connais plein de gens, hein, qui font des détox plus ou moins sérieuses, plus ou moins dangereuses même. Quelqu'un qui se lance dans une détox comme ça pour cet objectif bien-être et pas pour maigrir, encore une fois, c'est pas du tout le but. L'idée, c'est de faire un reset comme vous avez dit. Ça sert à rien si on fume à côté, si on boit du café, si on boit de l'alcool, parce qu'il y en a, ils font monodiète, mais par contre ils s'empêchent pas de fumer des cigarettes ou d'autres choses qui sont néfastes pour la santé. Là, non, on fait pas ça en faisant ça à côté. On est d'accord.
Et,
ouais.
Et même si on veut pousser le truc, on devrait pendant la détox ne pas travailler. Marcher,
ah oui,
en terre, etc. Faire une détox digitale de travail et tout ça. Et puis aussi, il y a un truc qui est assez important de le rappeler, c'est quand on commence un petit régime comme ça, ce qui est bien, c'est de commencer doucement, c'est de faire une descente alimentaire et une reprise alimentaire pour pas que ce soit trop choquant pour le corps et que les effets soient meilleurs encore.
Jimmy ?
J'ai tendance à manger très très vite et à très peu mâcher. J'ai cru comprendre que la mastication était importante et que ça partait du. C'est la base de l'alimentation.
Exactement. C'est donc déjà la digestion commence avant tout par les yeux, donc c'est important de manger du beau, mais aussi par la bouche. En fait, quand on mange trop rapidement, on loupe la première étape de digestion dans la bouche par la salive, mais aussi. tout le système, en fait, le fait de mastiquer permet de donner l'information à notre cerveau de la nature des produits. Si c'est des produits très huileux ou des légumes, des protéines, etc., ce ne sera pas digéré pareil. Donc, le système digestif ne se préparera pas de la même façon.
Donc, c'est manger en conscience aussi. C'est ça, Angèle, hein, qui est important.
Exactement.
Je crois.
Ouais. Tout à fait.
Vous mâchez combien de fois, par exemple ? Je vais pas vous auscultez votre mastication, mais il y a un nombre moyen de mastication qu'il faudrait faire.
On dit qu'on devrait boire ce qu'on mange et manger ce qu'on boit. Donc, quand on prend de l'eau, on devrait la prendre très doucement dans la bouche, si ce n'est si c'est de l'eau encore, ça va. Et quand on mange, on devrait vraiment mâcher jusqu'à ce que ça devienne liquide. Ça, ce serait le meilleur indicateur.
Après, vous l'avez dit, Jimmy, le sandwich englouti d'un trait, là, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon.
Oui, mais continuez à ausculter la mastication, Mélanie Gomez. Petite question, Angèle, les beaux jours arrivent, quels sont vos conseils cuisine en cette saison? Des fruits et légumes de saison, c'est quoi en ce moment?
Alors, en ce moment, il y a plein de choux, il y a plein de radis, il y a plein de... Vraiment, nos étals regorgent. Là, on commence à avoir tous les produits d'été, donc c'est un bonheur, les produits primeurs avec...
Moi, j'ai vu des abricots, mais je me disais que c'était un petit peu tôt, non, pour les abricots, quand même. Ils avaient l'air tout durs, là. Je ne les ai même pas achetés, du coup. Ouais.
C'est un peu tôt, non, pour ces fruits-là. Les asperges. On est en plein dans les asperges. Donc, les petits risottos, asperges, petits pois, c'est délicieux.
Qu'est-ce qu'on mange chez Angèle Ferromag en ce moment, ce soir, par exemple?
Ce soir, c'est pour ça que je pense à ça, en fait. C'est un petit risotto avec des coques. Donc, des petits coquillages qui sont juste sautés à la poêle avec des échalotes et des petits pois frais. Bon. Ensuite, je mixe les petits pois et le bouillon des coques pour faire une sorte de crème verte et je les sers avec des petites asperges. Et les
vous savez quoi, la famille Gomez, on va venir chez vous, on n'est que 4, donc on sera moins de 10. Hein, je ne sais pas combien vous êtes chez vous, on va venir manger chez vous. C'est ça. Merci beaucoup, Angèle Ferromag. Ça a l'air délicieux, ce risotto aux asperges et aux coques. Merci d'avoir été notre invitée, de nous avoir aidé à prendre soin de nous grâce aux ressources présentes dans la nature et dans notre assiette surtout. Merci.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans un instant, ce sera la chronique sexo de Catherine Blanc. Mais avant ça, on va écouter un peu de musique avec un chanteur que j'adore. On a beaucoup dansé en famille sur ses morceaux pendant le confinement. C'est Aldebert, avec un titre bien ancré dans l'actu. Ça s'appelle Corona Minus.
Avis à tous les terriens, le Corona Minus, un tout petit mais très dangereux virus extraterrestre, en provenance de Vénus, s'est posé sur la Terre. Et c'est à nous, petits et grands super-héros du quotidien, de nous défendre pour l'éliminer. Votre mission, si vous l'acceptez, est la suivante.
Lavez-vous les deux mains, une demi-minute. En récré, prenez soin d'éviter les disputes. Respectez la distance avec tous les copains. D'un mètre, puis la science, et puis tout ira bien. Vous soyez à Berlin, Strasbourg ou Hollywood. Prenez garde à toujours tousser dans votre coude. Évitez les balades dans les endroits bondés. Ne tombez pas malade, donc voilà une idée. Je sais pas ce qui me retient d'envoyer sur Vénus ce satané virus. Et non d'une chauve-souris, mais quand va-t-il filer d'ici? Déserter notre globe, satané microbe. La condition requise pour aller mieux demain, ne faites plus de bise, ne serrez pas de main. Pour être peinard, soyez mobilisés. Jetez votre mouchoir une fois utilisé. À l'école ou à la maison, restez zen et candide. Telle est votre mission et ce fichu Covid nous lâchera les baskets et nous crierons victoire. Partout sur la planète, on fêtera son départ. Nom d'un petit pangolin, je sais pas ce qui me retient d'envoyer sur Vénus ce satané virus. Et nom d'une chauve-souris, mais
c'était Corona Minus du chanteur star chez les enfants et les plus grands aussi, je confirme, c'était Aldebert.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints en ligne par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Bonjour Catherine.
Alors Catherine, aujourd'hui on va tenter de répondre à la question
Bonjour Catherine. Vous voyez, ça vraiment, c'est plus une réputation, il est sinistre quand.
C'était un bonjour Catherine. En plus plein d'enthousiasme. Donc,
Ah ouais, bah dis donc, hein, c'est pas enthousiaste.
Ah bah, on a de la chance.
Bon, voilà, on a de la chance aujourd'hui Catherine, alors profitons-en. On va répondre à la question de Solène, qui nous dit la chose suivante. Avec mon copain, nous avons expérimenté durant le confinement le slow sex, ce qui veut dire donc sexe lent en français. Nous avons adoré, mais cela prend tout de même du temps. Un temps que nous avons, on dirait qu'il parle d'une activité manuelle autre. Enfin bon, temps que nous n'avons plus vraiment depuis le déconfinement. Pensez-vous que cette pratique soit compatible avec ce retour à une vie normale? D'abord, Catherine, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est précisément le slow sex, s'il vous plaît?
Eh bien, c'est considérer d'abord que la sexualité n'est pas une histoire de pénétration, donc c'est élaborer toute la relation de caresses, de baisers, dans la lenteur, dans la tranquillité, dans l'accueil des émotions qui montent, du désir qui monte, dans les rythmes lents bien sûr, mais même quand ils se trouvent être rapides, revenir sur la lenteur des choses pour être dans l'ici et maintenant, c'est prendre conscience et dans la conscience de l'acte et non pas dans la recherche de l'aboutissement, dans la recherche de performance, dans la recherche de faire vibrer l'autre, mais être dans son corps et dans les émotions de sa peau, au contact du corps et des émotions de la peau de l'autre.
Dimmy, vous avez compris, c'est bon, vous
donc
avez
ça demande un peu de temps.
Bon, à vous Dimmy, vous n'avez pas beaucoup de temps alors...
Oui, bon, écoutez, j'essaie de me optimiser au mieux le temps disponible. L'idée, finalement, en gros, c'est parce que souvent dans un rapport sexuel, le but ultime, c'est l'orgasme, à la place des jeux sexuels, du temps qu'on peut passer, des mots doux. Donc finalement, c'est remettre la relation ensemble au centre, justement.
Absolument. C'est-à-dire que c'est pas vouloir. C'est un petit peu comme si on décidait de faire une balade, mais en fait, au lieu de faire la balade, on a décidé de voir tel point de vue. Donc, on va au point de vue. Tout le chemin est un enfer puisqu'on s'en fout. Le but est de voir le point de vue. Et une fois qu'on a vu le point de vue, il n'y a plus de chemin non plus à faire en retour. Or, le slow sex, c'est justement se proposer de faire une balade. C'est une balade à deux. C'est une balade dans la direction l'un de l'autre. Et puis qui n'a pas d'ailleurs de but, à proprement parler bien défini, parce que ce peut être l'orgasme, mais d'ailleurs l'orgasme, où est-il? Il n'est pas nécessairement au lieu de l'éjaculation masculine, il peut être tout au long de cette promenade, avec un moment d'émoi important, et puis qui peut s'arrêter, se reprendre, etc. Il y a un côté un peu chat qui s'étire, qui ronronne, qui prend le plaisir de ronronner et de se perdre dans ce ronron. Il y a quelque chose d'assez aventureux en fait.
Comment ils peuvent faire, Solène,
ce sprint vers une ligne d'arrivée?
Alors comment ils peuvent faire, Solène et son copain, pour continuer à ronronner tranquillement à l'avenir, maintenant qu'il y a des confinements, qu'ils ont peut-être repris leur activité professionnelle au rythme habituel? Comment on continue de ronronner quand on n'a plus le temps?
Je pense qu'on en a toujours le temps, puisque vous savez ce qui est assez étonnant, j'ai toujours été très surprise de voir que par exemple des gens qui me disent moi j'aurais absolument pas la place d'avoir un amant ou une maîtresse, et puis quand je suis désolée Jimmy, hein, je sais que c'est un sujet qui ne vous plaît guère, mais quand finalement ils cèdent à l'appel des sirènes et qu'ils se retrouvent alors qu'ils ont des vies extrêmement chargées à un rendez-vous galant au beau milieu d'une journée, il y a le temps pour ça. Donc je crois que l'erreur est de penser qu'il faut faire l'amour tous les jours de façon optimum, et que effectivement nous n'avons pas tous les jours le temps pour que ça prenne du temps. Mais même par exemple quand on va se coucher, on est pressé de se coucher, on est pressé de s'endormir parce que demain on travaille, mais simplement prendre le temps de la douceur de la sexualité plutôt que d'être dans un rythme où on a l'impression de faire du rodéo, eh bien évidemment que tout d'un coup on peut étirer, ça peut durer un peu plus de temps. C'est pas des heures, pas nécessairement des heures, parce que la notion de slow sex n'est pas dans le timing, parce que ce serait encore une autre performance, c'est dans la prise de conscience de la situation et de la douceur de cette situation. Donc ça peut durer pas nécessairement très longtemps, tout en étant du slow sex. Donc c'est une fausse idée que c'est la vie moderne qui empêche le slow sex. Je pense que c'est tout simplement parce que nous passons notre vie à nous fuir, à fuir toute situation de ressenti, d'être dans l'ici et maintenant. On est toujours dans le faire, et on oublie l'être. Le slow sex n'est rien d'autre que être dans l'être. L'être aimant, l'être désirant.
Jimmy, petite dernière question.
Est-ce que ça peut être thérapeutique? Je pense par exemple aux éjaculateurs précoces, par exemple.
Absolument, bien sûr. Le propre de l'éjaculateur précoce, c'est qu'il part du principe qu'il va éjaculer précocement. Donc, il est tellement dans le stress qu'il arrive déjà au point qui est ce qu'il a, s'est dicté déjà, à savoir son échec. Alors que prendre le temps de se caresser, de se pénétrer, puis de se retirer, puis de se repénétrer, puis de se retirer, c'est le meilleur moyen d'apprivoiser, c'est un des moyens en tout cas d'apprivoiser la durée de sa pénétration possible.
Eh bien, Catherine, on prendra plus de temps la prochaine fois pour répondre à cette question de Jimmy, hein, donc sur l'éjaculation précoce. Donc on y reviendra. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci Jimmy. On se retrouve.
Il est de bonne composition quand même.
On pourra reprendre cette question.
Il est sacrément dur, hein, moi je vous le dis.
Merci. On se retrouve demain tous les deux, tous les trois à 15h. Vos questions au 39-21 sont toujours les bienvenues. 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur. Et à présent, c'est Mathieu Noël et son équipe Sauvage. Bonjour Mathieu.